Alors, je sais pas si vous avez vu la vidéo, là, c'est honnêtement, c'est percutant. C'est percutant. Tu vois la policière et puis tu vois le gars qui s'approche d'elle avec des couteaux. Et puis là, ben, à un moment donné, tu la vois. Elle tire. Elle tire, puis elle rate. Bon. Puis là, on s'est dit, regarde, moi, là, d'abord, je veux être clair, là, je suis pas en train de porter un jugement sur le travail de cette policière-là. Il va y avoir enquête. Il n'y a pas personne d'entre nous qui étions là. OK, première affaire. Deuxième affaire, il faut quand même se poser la question. Mettons les différentes explications. Puis là, on va aller rejoindre un sergent détective retraité du service de police de la Ville de Montréal. Il a été instructeur de tir. André Gélina, bonjour.
Bonjour, M. Drainville.
Est-ce que c'est les nerfs qui fait que tu rates?
Écoutez, principalement, vous mettez le doigt sur l'explication. Effectivement, le stress peut provoquer un paquet de réactions très différentes chez les personnes lorsqu'elles sont soumises à des situations où est-ce que leur vie ou celle de quelqu'un d'autre est en danger. Comme dans les instructeurs de tir, on le sait très bien, lorsque notre pulsation cardiaque atteint environ 170 battements par minute, on tombe ce qu'on appelle dans une zone d'hypervigilance. Et ça a pour effet que nos capacités motrices, notamment la capacité de faire des tâches fines, la vision tunnel qui s'installe, ben on devient moins efficace et ça, c'est physiologique. On n'y peut rien. Ce qui peut améliorer nos performances à ce moment-là, c'est un, la préparation mentale et deux, c'est l'entraînement au tir dans des situations très diverses.
OK. L'entraînement. L'entraînement va faire une différence de quelle manière? Est-ce que c'est quoi d'abord? C'est dans le réflexe, la rapidité avec laquelle tu vas saisir ton arme, donc tu sauves du temps. On s'entend là, parfois là, la vie est, la différence entre la vie et la mort, c'est une fraction de seconde. Donc l'entraînement va te donner cette fraction de seconde?
Oh, vous avez raison, c'est des nanosecondes, mais effectivement, l'entraînement, ce que ça fait, c'est ça ne vous apporte pas une certitude. Ça ne fait qu'augmenter la probabilité d'un résultat X, le résultat qu'on recherche. Donc, je vous expliquerai que la formation généralement qui est donnée à des policiers, faut s'enlever de la tête, on ne forme pas les policiers pour devenir des tireurs d'élite. Premièrement, c'est une formation qui est assez de base, qui fait en sorte que les policiers vont tirer dans divers scénarios, mais souvent, c'est dans des situations, je dirais pas idéales, mais dans des positions idéales. C'est très difficile de recréer le sentiment de danger, le sentiment de peur qui peut animer un policier ou une policière lorsqu'il est confronté à ça. Vous savez, dans sa tête, tout spinne très rapidement. Les conséquences de son geste, je le fais-tu, je le fais-tu pas, je suis justifié, est-ce que je le suis pas? C'est cet ensemble de choses-là qu'il faut essayer de recréer en entraînement, mais c'est très difficile.
Là, j'ai beaucoup d'auditeurs qui m'écrivent pour dire, d'après eux, elle visait les jambes. Et il y en a même un qui me dit elle voulait pas avoir la mort sans conscience, fait qu'elle a essayé de le blesser puis elle l'a manqué. Réaction.
Ben, premièrement, on va mettre les choses au clair. Là. Lorsque vous prenez la décision de faire feu, c'est que vous êtes arrivé à une certitude que votre vie ou celle de quelqu'un d'autre est en danger ou que vous craignez des lésions corporelles graves, premièrement. Deuxièmement, le modèle national d'emploi de la force nous dit lorsqu'on craint ce que je vous ai décrit, on est rendu à la puissance d'arrêt, c'est-à-dire la puissance mortelle. On ne recherche pas nécessairement la mort de l'individu. Ce qu'on recherche, c'est de créer une dysfonction biomécanique ou une chute de pression sanguine tellement importante qui va faire en sorte que la personne va tomber. L'agression va stopper net, pas dans 30 secondes, pas dans 10 minutes, immédiatement. Bon, viser une jambe, ça on entend souvent ça un peu comme information. Premièrement, c'est irréaliste de penser qu'une si petite cible pourrait être atteinte dans les conditions que je vous ai décrites tout à l'heure. Deuxièmement, frapper une jambe ou un bras ou une épaule, ben il n'y a pas nécessairement de vaisseau sanguin assez important qui ferait en sorte qu'il y aurait une chute de pression sanguine immédiate. Puis en même temps, il n'y aurait probablement pas de dysfonction biomécanique assez importante qui immobiliserait l'individu.
Fait que même donc, si tu réaliste. L'atteins, même si tu l'atteins, il peut continuer à poser une menace pour ta vie. C'est ça que vous dites.
Oh mon Dieu. Il y a des cas qui sont documentés qui prouvent que même avec plusieurs coups au thorax, il y a des individus qui sont sous l'influence de stupéfiants, de drogue ou autre, ou simplement en crise. Ça les, en bon français, ça les décoiffe pas pendant tout. Là.
Tu veux dire, ils sont atteints plusieurs fois, puis ils ont, grâce à l'adrénaline, la drogue, oui, peu importe, ils vont continuer à charger vers toi. Ils peuvent quand même t'agresser, ils peuvent quand même même te tuer, même s'ils ont été atteints plusieurs fois, c'est ça?
Ben oui, parce que regardez, souvent aussi, on va parler de la fameuse règle des 21 pieds. C'est-à-dire qu'un excellent tireur, s'il y a un individu avec un couteau qui le menace à une distance de 21 pieds, si l'individu le charge, comme vous dites, ben le temps qu'il dégaine, qu'il fasse feu, ben les chances sont excessivement élevées que le couteau pénètre dans le policier lorsqu'il va faire feu. Donc, faut jamais oublier une chose, le policier part toujours deuxième. On appelle ça le PADA, perception, analyse, décision, action. On réagit aux actions de la personne. En fait, ceux qui mènent le bal, c'est le suspect. Nous, on réagit et on essaie de s'adapter. Des fois, on va augmenter la force. Des fois, on va la descendre, dépendamment de la réaction. La policière, on l'entend, là, c'est sûr que sur la vidéo, c'est pas très clair, mais c'est sûr qu'elle lui communique des ordres. Elle lui communique à haute voix, lâche tes couteaux, couche-toi par terre, des choses comme ça. Donc, ça donne une indication au policier. Est-ce que l'individu coopère? Est-ce qu'il est en état de comprendre? À ce moment-là, ben, les actions subséquentes vont être décidées.
Quand vous avez vu la vidéo, André Gélina,
oui,
vous avez pensé quoi? Puis là, on s'entend, il y aura enquête, il faut se garder, oui, là, on n'était pas là. Mais quand même, votre analyse, je dirais, comme observateur et expert. Là.
Oui. Ben, écoutez, moi, je ne suis pas surpris de ça. Puis en même temps, c'est l'exemple qui peut servir justement d'explication pour qu'on puisse justement décortiquer ce qui s'est produit, non sans porter un jugement, parce que honnêtement, je veux dire, c'est très difficile de se mettre dans la peau de cette policière-là qui, on doit le souligner, a risqué sa vie pour aller sauver le citoyen qui était pris en arrière des poubelles, là, qui se faisait charger avec les couteaux. Il ne faut pas l'oublier. Là.
Ça, c'est un. Donc, oui, c'est pas mal essentiel, ça. Oui.
Mais c'est ça. Donc, cette personne-là, on peut difficilement juger. Mais les solutions à apporter, comme je vous dis, ben c'est sûr que c'est au niveau de la formation. Regardez, on sait pertinemment la section formation, quand moi j'étais là. Section formation, c'est une unité de support. C'est une unité qui coûte de l'argent, mais qui, entre guillemets, n'en rapporte pas. Donc, les corps de police font affaire avec des budgets restreints qui sont toujours soumis aux assauts puis aux coupes potentielles, ouais, de nos dirigeants politiques. Donc, le tir, je vous dirais que c'est comme un mal nécessaire au sens où est-ce que, oui, on forme nos policiers, mais en même temps, c'est jamais assez puis c'est clairement pas assez.
Non, mais c'est un très bon point. C'est bon de le rappeler. Là, j'ai quand même des auditeurs qui me disent, ouais, tout ça, c'est bien beau, mais elle a tiré quatre fois. Une des balles perdues aurait pu atteindre un simple innocent autour de la scène de crime, là.
Ben, c'est clair, puis heureusement, ça s'est pas produit. Mais écoutez, oui, c'est des choses qui, malheureusement, on ne pourra jamais éliminer le risque que ça se produise. Le nombre de balles tirées, c'est jamais un nombre de balles absolu. C'est toujours tiré en fonction de la continuité de la menace. C'est-à-dire que ça prend le nombre de balles nécessaires pour que la menace cesse. Donc, si le policier, exemple, dans ce cas-ci, elle a raté les premiers coups, ben, c'est logique de penser qu'elle continuait de vouloir neutraliser la menace. Mais en même temps, comme je vous dis, j'aimerais ça vous dire que oui, il y a une recette magique. Vous savez,
il y en a pas.
C'est un peu la théorie des vases communicants. Un tireur d'élite qui est sur un toit, son niveau de stress est bas, son niveau de compétence est élevé. Quelqu'un qui est dans le stress, qui est confronté à la menace que sa vie est directement en jeu ou celle de quelqu'un d'autre, ses compétences, malheureusement, diminuent, ses capacités motrices diminuent, vu que le stress monte. C'est comme je vous dis, c'est la théorie des vases communicants. Ça, c'est un phénomène connu.
André Gélina, sergent détective retraité du SPVM, vous avez été instructeur de tir, ça paraît. Merci. Oui. Merci beaucoup,
merci.
André.
Merci. Bonne journée, M. Drainville.
Vous aussi. On s'en va à pause au retour. On va parler hockey, Canadien, Calgary. Eux autres, il faut y battre, là. Faut y battre parce qu'eux autres, ils sont cinquièmes, puis nous autres, on est quatrièmes. Puis si on veut faire les séries, il faut au moins être quatrième. Fait qu'à soir, il faut gagner.